Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. À 18h20, mon invité, l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue, viendra nous parler du projet de loi qui sera présenté demain au Conseil des ministres relatif à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et au renseignement. Un texte qui était prévu bien avant l'assassinat de la policière de Rambouillet. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra notamment sur cette tribune de militaires qui menacent d'intervenir face au chaos croissant qui règne à leurs yeux en France. Irresponsable, dit la ministre des Armées qui réclame des sanctions. Et puis entre 19h20 et 20h, c'est votre club des idées, votre débat. Et si les années 2020 devenaient une ère de prospérité? Certains en sont persuadés. La crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à des révolutions technologiques majeures, médicales, numériques, écologiques. Le monde d'après-crise aura forcément une furieuse envie de vivre. Comme il y a un siècle, allons-nous connaître nous aussi des années folles? On a très envie d'y croire. Rendez-vous à partir de 19h20. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Merci à vous d'écouter Europe 1. Il est pile 18h.
La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Donc j'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible.
On manquait de doses au début de la campagne de vaccination. Voilà maintenant que les patients pourtant éligibles se font désirer. Les créneaux libres se multiplient, dit le ministre Véran. Explication dans ce journal.
Ouvrir la vaccination à tous les plus de 50 ans avant le 15 mai, le gouvernement s'interroge sur une accélération du calendrier vaccinal.
La précarité étudiante frappe beaucoup plus les jeunes femmes que leurs collègues masculins. Elles sont particulièrement touchées par la précarité alimentaire.
Dernière ligne droite pour le plan de relance européen. Paris espère 40 milliards d'euros d'aide, mais pour cela, il doit montrer patte blanche. La France remettra sa copie demain à Bruxelles.
Le Parlement européen qui doit se prononcer sur l'accord commercial post-Brexit. Les Français sont en colère. Ils accusent Londres ne pas respecter ses engagements sur la pêche.
Plus de savon, mais moins de déodorants et de dentifrices. Les Français ont changé, paraît-il, de comportement en matière d'hygiène depuis le début de cette crise sanitaire. Il y a ce qui se vend plus et ce qui se vend moins, nous dira Emmanuel Duteil.
La Ligue des champions de football, PSG Manchester City, demain en demi-finale avec un Neymar heureux à Paris. Il l'a dit et vous saurez pourquoi à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris est stable, moins 0,03% à 6273 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Les averses vont gagner du terrain demain, Anissa.
Oui, le ciel devient capricieux hein, demain avec des averses sur presque toutes les régions, vous le disiez Isabelle, mais côté température, ça se maintient, ça reste stationnaire avec plus de 20 degrés par exemple dans la capitale. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La machine est lancée, bien lancée, même on parle de la campagne de vaccination. Plus de 14 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. Cela représente un Français sur cinq. L'objectif des 20 millions de primo-vaccinés au 15 mai sera tenu, sauf catastrophe. Mais dans certains centres de vaccination, on ne se bouscule plus pour se faire vacciner.
Oui, et les autorités sanitaires n'ont qu'une crainte, hein, se retrouver avec des doses inutilisées qu'il faudrait jeter à la poubelle. L'exécutif réfléchit donc à la possibilité d'élargir les cibles de vaccination, Victor Delande.
Oui, le phénomène est bien réel, j'ai encore vérifié il y a quelques minutes. Il suffit de se rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous pour la vaccination et en quelques clics, on trouve des créneaux très facilement, notamment dans les vaccinodromes. C'est le cas au Stade de France, au Stade Vélodrome de Marseille. Selon les dernières estimations, il y a actuellement, tenez-vous bien, plus de 220 000 rendez-vous ouverts dans plus de 600 centres et ce sur tout le territoire. L'explication est d'abord mathématique. La France reçoit de plus en plus de doses depuis quelques semaines et dans le même temps, la vaccination progresse fortement dans les tranches d'âge prioritaires. En déplacement cet après-midi à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué la marche à suivre pour remplir ces créneaux vacants.
La règle, c'est qu'on ne jette aucune dose de vaccin. Et donc, les centres disposent de fichiers de rappel des personnes qui ont pris des rendez-vous qui peuvent être lointains ou des personnes qui sont dites en liste d'attente, et notamment les personnes les plus fragiles. Donc, j'invite les directeurs de centres à contacter ces fichiers de personnes pour leur proposer, pour les inviter à venir se faire vacciner sur chaque créneau de vaccination disponible dans chaque centre du territoire national.
Mais pour le moment, il est trop tôt pour ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 50 ans, a estimé le ministre. Ça doit être le cas à partir du 15 mai. Le gouvernement laisse quand même la porte ouverte pour élargir les cibles à vacciner si jamais il s'apercevait que ce nombre de créneaux disponibles venait à grandir dans les prochains jours.
Victor, par ailleurs, pour les personnes qui ont déjà reçu leurs deux doses, on parle bien des deux doses, le Haut Conseil pour la Santé publique les invite à retirer le masque à l'intérieur.
Oui, un allègement des gestes barrières, mais vous l'avez dit, sous certaines conditions. D'abord, cet avis ne vaut que pour les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin. Ça concerne pour le moment 5,7 millions de Français et on pourra enlever le masque que si toutes les personnes dans la pièce sont elles aussi vaccinées. Pas question pour autant de relâcher complètement les gestes barrières pour ces personnes immunisées. C'est encore trop tôt car il y a encore beaucoup d'incertitudes sur plusieurs points. Sur l'efficacité des vaccins, notamment sur certains variants, sur la durée de production, de protection du vaccin et sur la transmission. Autrement dit, peut-on encore transmettre le virus alors qu'on est déjà vacciné ? En attendant plus de données, le Haut Conseil pour la Santé publique recommande donc aux personnes vaccinées de continuer à faire bien attention.
Explication Victor Delande du service Société d'Europe 1. Il y a la crise sanitaire, il y a aussi la crise économique et ses conséquences sur le quotidien. On savait qu'elle affectait particulièrement les jeunes. On sait aussi qu'à l'intérieur de cette tranche d'âge, eh bien, ce sont les femmes qui sont le plus touchées.
Effectivement, c'est ce que révèlent deux études. Hein. L'une menée par une association étudiante, l'autre par l'IFOP. L'enquête révèle que les jeunes femmes, Diane Berger, sont effectivement le plus frappées par la précarité.
Oui, dans les files d'attente des banques alimentaires pour étudiants, 7 sur 10 sont des femmes et une vaste majorité d'entre elles n'avaient pas besoin d'être aidées avant. C'est le cas de Salomé, une étudiante en droit de Paris. Avant la crise, elle gagnait 600 euros par mois grâce à des babysitting. Depuis l'instauration du couvre-feu, son revenu a été coupé en deux.
Lorsque les prélèvements sont passés sur mon compte, il reste pas grand-chose, quoi. Il y a plein de midis où j'ai sauté des repas. J'avais juste pas d'argent sur moi, donc il y a des distributions alimentaires auxquelles j'ai participé, où j'ai pu récupérer des paniers qui me permettaient de manger, quoi.
Une difficulté que ne connaît pas son frère, qui lui est livreur à vélo. Et c'est un cas de figure classique, décrit Joannie Caillouet-Tremblière, sociologue à l'Institut national des études démographiques.
Les jeunes femmes travaillent davantage dans des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, qui ont été beaucoup plus impactés par la crise que des emplois manuels, de manutentionnaires, livreurs, etc., qui sont des emplois plus masculins que féminins.
Et du côté des banques alimentaires, on s'inquiète maintenant de voir des étudiantes venir demander des protections hygiéniques. 4-5 euros le paquet seulement, que les plus précaires d'entre elles n'arrivent même plus à s'acheter.
Explication Diane Berger.
L'Europe tarde à débloquer le plan de relance de 750 milliards d'euros et Paris souhaiterait que les choses aillent un peu plus vite. Hein, mais il y a des étapes à respecter.
Et oui, on rappelle que le plan a été voté en juillet dernier. Paris doit recevoir 40 milliards d'euros de subventions. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, voudrait toucher les premiers versements d'ici l'été. Sauf qu'a priori, eh bien, ce ne sera pas avant septembre. Et en plus, Carole Ferry, eh bien, ce n'est pas un chèque en blanc.
Et non, il y a des règles à respecter. En effet, première obligation, il faut prouver que l'argent permettra de relancer l'économie avec des mesures vertes. De ce point de vue-là, la France prévoit de consacrer 37% des fonds à la transition écologique, notamment grâce aux aides pour la rénovation énergétique. Le reste doit servir à financer la compétitivité des entreprises, la transformation numérique ou encore l'emploi des jeunes. Il y a également une deuxième obligation. Prouver qu'une fois la crise passée, nous pourrons assainir nos finances publiques et réduire notre déficit. Sur ce point, la France promet une loi qui permettra de mieux encadrer les dépenses de l'État. Elle met en avant également la réforme de l'assurance chômage. Sur la réforme des retraites, ce serait un gage pour Bruxelles, mais pas forcément une bonne idée avant la présidentielle. Le dossier tricolore suffira-t-il à convaincre ? La Commission européenne se laisse plusieurs semaines de réflexion. Trop long à fustiger aujourd'hui Bruno Le Maire. Selon le ministre de l'économie, il faut aller le plus vite possible pour que l'argent soit versé dès cet été et qu'on limite notre retard sur la reprise aux États-Unis et en Chine.
Précision de Carole Ferry du service Écho d'Europe 1. L'Europe, il en est encore question avec le Brexit. Sauf surprise, le Parlement européen doit ratifier définitivement l'accord de sortie de l'Union, mais on n'est peut-être pas encore arrivé tout à fait à la fin de l'histoire, Christophe.
Eh oui, la raison, c'est le bras de fer entre Paris et Londres sur le dossier de la pêche. La France menace le Royaume-Uni de mesures de rétorsion. 4 mois après la signature du Brexit, les pêcheurs français attendent toujours de pouvoir poser leur filet dans les eaux britanniques, Nicolas Feldman.
Oui, puisque pour cela, nos pêcheurs français doivent désormais posséder des licences indispensables depuis le Brexit pour pêcher de l'autre côté de la Manche et ainsi accéder à une zone très riche en poissons. Mais voilà, à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, seuls 22 bateaux sur 120 ont obtenu leur autorisation. Christophe Lormel attend encore la sienne.
Ça devrait faire plus déjà d'un mois qu'on devrait être dans les eaux anglaises et on n'a toujours pas cette fameuse licence pour aller pêcher là-bas. Ça fait un manque à gagner par toute la flottille. Et même, on ne peut pas continuer à pêcher dans une si petite zone que ça, comme dans les zones françaises, quoi. Parce que on est en train de pêcher tous les poissons, tout le monde dans la même zone. On espère surtout, c'est que l'Union européenne et la France vont faire appliquer ce qui a été écrit dans le décret.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni continue de bloquer. Il faut aller au bras de fer, nous dit un conseiller ministériel. Arracher une à une les autorisations. Une vingtaine de licences devraient être débloquées dans les prochains jours. Pas assez pour Paris qui menace donc Londres de mesures de rétorsion dans d'autres secteurs que la pêche. Cela pourrait par exemple concerner les services financiers.
Les précisions de Nicolas Feldman.
Les obsèques de Stéphanie, cette policière assassinée par un terroriste, auront lieu jeudi. Une cérémonie privée à laquelle le président Emmanuel Macron a prévu de se rendre. Un hommage national lui sera rendu le lendemain, vendredi, en présence cette fois du Premier ministre Jean Castex.
Oui, c'est dans ce contexte de lutte contre le terrorisme que l'on apprend l'interpellation de 7 personnes originaires de Géorgie et du Caucase, des hommes âgés de 28 à 48 ans, soupçonnés pour l'un d'eux d'avoir séjourné en Syrie et pour les autres d'y avoir envoyé des fonds. Et je vous rappelle que d'ici quelques minutes, je reçois l'ancien patron du RAID pour parler justement de la lutte contre le terrorisme, Jean-Michel Fauvergue.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h11, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre et on va parler d'hygiène en temps de Covid. Il y a des choses à dire hein, et il y a aussi des surprises, Christophe.
On n'a jamais vendu autant de savons en France. Alors cela en fera peut-être sursauter certains, mais c'est un fait. Les ventes de couleurs pour cheveux aussi se sont envolées. Les clients et les clientes ont gardé l'habitude de se débrouiller seuls désormais. Mais Emmanuel Duteil, cette crise a eu des répercussions assez inattendues sur certains produits d'hygiène.
Oui, hein. Les ventes de déodorants, par exemple, ont chuté chez L'Oréal de 30% au premier confinement. Et encore aujourd'hui, elles sont en baisse de près de 8% par rapport à une période normale. Baisse aussi pour les ventes de dentifrice ou de brosses à dents. Pour Céline Brucker, en charge de la division grand public de L'Oréal, invitée aujourd'hui sur Europe 1 de la France Bouge, les Français dépensent moins pour leur hygiène.
Les hommes en particulier, hein, c'est quelque chose d'assez français. Et c'est probablement lié au télétravail et encore une fois à la relation sociale. Donc ces gestes d'hygiène sont manifestement, pour certains, ancrés dans la relation sociale.
Alors, à cause du port du masque, les ventes de maquillage sont aussi en forte baisse, mais ce segment repart très vite dans les pays qui rouvrent, par exemple, leurs terrasses ou leurs restaurants.
La catégorie repart très fort, effectivement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Beaucoup sur les lèvres, parce que la couleur et les lèvres, on en a été quand même privés. Donc, la couleur revient en force. Le regard, toujours très fort. Les cernes, hein, l'anti-cerne. Tout ça, voilà, sont des problématiques du moment.
Une crise, en tout cas, qui montre que le pouvoir d'achat des Français est contraint. L'Oréal note que l'on cherche de plus en plus des petits prix pour les produits de soins ou d'hygiène.
Et voilà les explications d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Le foot et le grand soir, c'est demain. Sortez les maillots. Ce sera en direct sur Europe 1. PSG Manchester City, au Parc des Princes. Cette fois, on passe aux choses vraiment sérieuses. C'est une demi-finale de Ligue des Champions. Hein.
Marc, match aller au Parc, vous l'avez dit. Est-ce pour cette raison qu'il est venu en conférence de presse? Ne souriez pas, c'est un événement. Neymar a accepté de se plier à cet exercice formel et pas toujours passionnant. Julien Froment, on aurait pu l'imaginer boudeur. Eh bien, pas du tout. Le Brésilien est heureux, c'est vrai
oui,
ça?
Oui, très heureux même. Fini les absences à répétition dans le sprint final. Neymar est bien dans son corps, bien dans sa tête. Pour preuve, cela faisait 2 ans et demi qu'il n'avait plus participé à un point presse. Le Brésilien, à l'aise dans ses crampons, n'a esquivé aucune question, même concernant son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin 2022. Alors, pas d'annonce concernant une éventuelle prolongation, mais une certitude, Neymar se sent comme chez lui au Paris Saint-Germain.
J'ai déjà dit que j'étais heureux ici à Paris. Je me sens bien mieux que les 2 dernières années. Je suis de plus en plus à l'aise.
Un Neymar sérieux, souriant, concentré sur les objectifs du Paris Saint-Germain de cette fin de saison. Il voit d'ailleurs son équipe incapable de remporter la Ligue des Champions.
Quand j'ai signé au PSG, la priorité était claire, remporter la Ligue des Champions. L'an passé, on en a eu l'opportunité en atteignant la finale. C'était la première fois dans l'histoire du club. On fait partie des 4 meilleures équipes d'Europe. Cela signifie que le travail paye de plus en plus.
Aucune fausse note de communication. On attend désormais de Neymar un nouveau récital demain soir au Parc des Princes contre une équipe de Manchester City, invaincue cette saison en Ligue des Champions.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, on rappelle un PSG, Manchester City, coup d'envoi 21h, mais dès 20h demain soir sur Europe 1, soirée spéciale Ligue des Champions animée par Lionel Rousseau. Puis on rappelle quand même aussi, Isabelle, qu'il y a un match ce soir. Hein, c'est Real Madrid contre Chelsea. Mais ça, évidemment, ça va être aussi un très très beau match
beau
en perspective.
Beau match aussi. Il parle toujours pas français, Neymar, Julien Froment hein.
Pas devant les médias, en tout cas.
Bon, merci en tout cas, Christophe Lamarre.
Déjà, il est heureux, on va pas trop lui en demander non plus. Hein.
On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h, bien sûr, pour un nouveau journal. Anissa Haddadi, ce sera une journée bien moins belle hein, demain.
Oui Isabelle, hein, désolée, c'est pas franchement une bonne nouvelle, mais c'est vrai que dès le début de la journée, nous aurons du côté des côtes de la Manche, hein, entre les Hauts-de-France et la Bretagne en passant par le Cotentin, un ciel très couvert dès demain matin avec quelques gouttes sur la Normandie et la pointe bretonne. Attention en Basse-Normandie aussi, si vous devez prendre la route tôt demain matin, attention aux brouillards locaux. En région parisienne et jusqu'au Grand Est, là le temps reste ensoleillé demain matin, profitez-en. Parce que sur la moitié sud du pays, le ciel est gris, avec sur les Alpes, le Massif central, le Limousin et les Cévennes, des averses. Dans l'après-midi, le temps devient humide sur quasiment toute la France. Seuls les pays de la Loire, le Poitou-Charentes et la Gironde resteront au sec. Pour tout le reste, c'est de la pluie, des averses avec même parfois des coups de tonnerre. Les températures demain matin, 2 à 8 degrés sur la moitié nord jusqu'à 11 dans le sud. Et puis au meilleur de l'après-midi, nous aurons 12 degrés à Cherbourg, 15 à Brest et La Rochelle, 17 à Marseille et Clermont-Ferrand, 21 degrés pour Paris et 23 à Strasbourg avec les parapluies évidemment.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Notre invité ce soir sur Europe 1 est ancien patron du RAID, député La République En Marche. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Pour vous Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il existe un lien entre immigration et terrorisme? Vous savez que c'est le grand débat qui monte en ce moment. La droite reproche à ce texte d'esquiver le lien entre terrorisme et immigration.
En tant que chef du RAID, je suis intervenu sur les attentats majeurs. Tous les gens sur lesquels je suis intervenu, c'était des Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des terroristes étrangers. Bien sûr qu'il y a des terroristes de nationalité étrangère. Mais je voudrais préciser une chose qui, moi, me paraît importante. Tous les terroristes ne sont pas étrangers, tous les étrangers ne sont pas terroristes. Et en réduisant ce problème juste au problème de l'immigration, il faut le traiter, hein, ce problème de relationnel. Mais en le réduisant, on passe à côté de l'analyse importante qu'on doit faire sur le fait du terrorisme. Et on ment aux Français. Si demain, quelqu'un s'engage en disant « moi, je vais expulser... » Allez, on va prendre cet exemple-là, qui est un exemple extrême, bien évidemment, j'en ai conscience. On va expulser tous les étrangers de France. Comme ça, il n'y aura plus d'attentats terroristes. Vous voyez, c'est évident que c'est une bêtise que de dire ça. Donc, il faut qu'on travaille sur les phénomènes de terrorisme sous toute leur largeur, sous toute leur culture, sur l'ensemble du prisme. Travailler sur les étrangers qui sont terroristes, mais travailler aussi sur les 70% des terroristes qui sont français.
Jean-Michel Fauvergue, vous êtes avec nous ce soir pour évoquer donc ce projet de loi qui sera présenté demain au Conseil des ministres relatif à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et au renseignement. Le texte qui était prévu, on le rappelle, bien avant l'assassinat de la policière de Rambouillet. Alors, il y a plusieurs axes dans ce projet, notamment pour repérer les individus isolés qui passent à l'acte, comme dans le cas de Rambouillet. Ce texte, initialement, prévoyait notamment d'améliorer le traitement des données informatiques et de pérenniser le retour aux algorithmes, sauf qu'il y a eu des recours devant le Conseil d'État qui doit trancher d'ici le 12 mai sur la question. Mais est-ce que vous seriez favorable, Jean-Michel Fauvergue, à la pérennisation de ces algorithmes ?
Oui, bien sûr. Effectivement, vous l'avez dit, il y a plusieurs axes de ce projet de loi. Et ce projet de loi est chargé de pérenniser un certain nombre de techniques, à la fois des techniques de renseignement, les recours algorithmiques en sont, mais aussi des techniques qui étaient prévues dans la loi SILT, la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme que nous avons voté en 2017 et dont l'expérimentation arrive à échéance et qu'il faut proroger pour cette lutte contre le terrorisme. Pour vous répondre tout à fait totalement sur les recours algorithmiques, c'est fait en ce moment de manière expérimentale aussi dans les services jusqu'à un certain point.
Mais comment ça se passe concrètement pour qu'on comprenne
bien ? Vous savez, ça se passe comme dans les entreprises privées, vous avez des algorithmes qui repèrent un certain nombre de choses à partir de mots, à partir de références et qui font qu'à un certain moment, les services de renseignement vont pouvoir être alertés sur ce qui se passe sur un compte internet d'une personne particulière. C'est très important. Pourquoi c'est très important ? Parce qu'on est passé à un terrorisme endogène. Un terrorisme qui se fait de manière individuelle, rapide et qui est pour autant meurtrier. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc c'est très important de pouvoir déceler de la part des services de renseignement par des systèmes de ce type-là des personnes qui s'intéresseraient à un certain nombre de sites importants pour pouvoir ensuite les surveiller de manière plus technique ou plus humaine et pour ensuite faire des interpellations ou mettre en place une partie qui elle aussi fera partie de ce projet de loi, c'est-à-dire une partie qui va être compléter et améliorer ce qu'on appelle les visites domiciliaires administratives.
Mais pour en venir juste à ces algorithmes, cette future loi, elle changerait quoi en fait par rapport à ce qui existe aujourd'hui ?
Cette future loi déjà pérenniserait un certain nombre de choses qui est fait par les services de renseignement.
Mais par exemple, on sait que le meurtrier de la policière de Rambouillet, il avait publié sur les réseaux sociaux des messages à caractère islamiste. Est-ce que ces algorithmes auraient permis de le détecter ?
Je ne suis pas un spécialiste en ce domaine-là, mais les spécialistes vous diront qu'à un certain moment, à partir du moment où vous introduisez des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans un certain nombre de choses, vous avez plus de facilité que de travailler uniquement sur du travail humain. Ça se comprend, on est au XXIe siècle, et sans doute que ça aurait servi à quelque chose, oui, bien évidemment.
Bien, Jean-Michel Fauvergue, le ministre de l'Intérieur, propose aussi de renforcer le contrôle administratif des condamnés pour faits de terrorisme à leur sortie de prison. Et là encore, on a besoin de votre éclairage. Aujourd'hui, comment ça se passe quand un condamné à 5 ans de prison ou plus pour terrorisme islamiste se retrouve en liberté après avoir purgé sa peine ?
Déjà, à l'heure actuelle, il est suivi. Alors, il est d'abord suivi juste avant sa sortie de prison par le renseignement pénitentiaire qui a été beaucoup augmenté sous ce quinquennat, dont les effectifs et les moyens ont été beaucoup augmentés. Et le relais est pris à leur sortie de prison par la DGSI ou d'autres services de renseignement, sachant que tout ça se travaille sous un chef de file-là. Le chef de file de ce travail-là, c'est la DGSI. Donc, tout est concentré dans ces mains-là, et ça permet de mieux suivre l'individu. Et là, ce qui est proposé dans le projet de loi, c'est de passer de 1 an à 2 ans le suivi de ces individus-là.
Une fois sortis de prison.
Une fois sortis de prison.
Sauf qu'on entend toujours dire qu'on n'a pas les moyens de mettre un policier derrière chaque personne.
Ah mais non, mais heureusement, on est dans un pays démocratique et on ne mettra jamais un policier derrière chaque personne. Ça voudrait dire que la moitié de la population travaille dans la police et l'autre moitié est surveillée. Donc à un certain moment, il faut quand même se rendre compte des choses. Mais c'est pour ça aussi que l'on doit s'appuyer sur la technologie, sur un certain nombre de choses, comme ces algorithmes, l'intelligence artificielle. Ce sont des techniques et de la technicité dont nos services ont besoin.
Alors Gérald Darmanin veut aussi instaurer un critère de menace grave pour faciliter les saisies et les visites à domicile. Aujourd'hui, par exemple, quand on suspecte quelqu'un de projeter un attentat, on ne peut pas se rendre chez lui ?
Si, bien sûr que oui. La loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, qui est une loi qui a succédé à la fin de l'état d'urgence. Vous vous rappelez qu'on a mis fin à l'état d'urgence et on a passé dans la loi, dans notre droit actif, on a passé un certain nombre de pouvoirs qui étaient dans l'état d'urgence. À l'époque, on appelait ça les perquisitions administratives. J'en ai fait quelques-unes dans mon ancien service avec le RAID. Et on les a transformées en visites domiciliaires administrative. On a rajouté le contrôle du juge, du GLD, d'un juge, mais elles sont quand même ordonnées par le préfet. Donc on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là aujourd'hui. La police, la gendarmerie, les services de renseignement ont ce pouvoir-là. Ce que veut le ministre, et il a bien raison là-dessus, c'est de renforcer aussi ce pouvoir-là pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de personnes qui passent au travers de ce spectre-là. L'idée, c'est effectivement d'éviter, et je pèse mes mots quand je vous dis ça, d'éviter le plus grand nombre possible d'attentats. On sait très bien qu'on n'évitera pas tous les attentats. Le fou ou le radicalisé au dernier degré qui veut passer à l'action du jour au lendemain, c'est difficile de l'arrêter. Mais le but, c'est justement, avec tous ces moyens, et ces moyens en particulier numériques, de pouvoir le repérer très vite.
Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue d'avoir accepté ce soir notre invitation sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h30, le rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Aucun cas de variant d'origine indienne identifié en France métropolitaine, assure le ministre de la Santé. Olivier Véran confirme un recul très lent de l'épidémie. On est passé de 40 000 cas quotidiens à un peu moins de 30 000 aujourd'hui. Le chômage continue de baisser en France. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a reculé de 0,4% au premier trimestre pour s'établir à 3,8 millions de personnes. Troisième trimestre consécutif de baisse, mais sur un an, il augmente de 6,3%. Les obsèques de Stéphanie, cette policière assassinée par un terroriste, auront lieu jeudi. Une cérémonie privée à laquelle le président Emmanuel Macron a prévu de se rendre. Un hommage national lui sera rendu vendredi en présence du Premier ministre Jean Castex. Ouverture d'une information judiciaire pour mise en danger de la vie d'autrui après la fête improvisée au parc des Buttes-Chaumont à Paris. Plusieurs centaines de personnes, dont certaines n'étaient pas masquées, se sont rassemblées et s'étaient retrouvées pour écouter de la musique et danser. À Lyon, deux frères qui avaient organisé une fête sur les berges de la Saône comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Enfin, le football avec la première demi-finale de la Ligue des Champions ce soir. Le Real Madrid reçoit Chelsea, coup d'envoi à 21h.
Merci Christophe Lamarre. Et l'info revient avec vous bien sûr à 19h avec un nouveau journal complet. On vous retrouve Anissa Haddadi et votre programme pour demain, ce sera humidité et douceur.
Alors, vous savez ce qu'on va faire, Isabelle, pour que ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Je vais vous donner les endroits où il ne va pas pleuvoir demain.
Allons-y.
Ça sera plus rapide. Alors, demain matin, sur les bords de Manche, les Hauts-de-France, le Grand Est et la région parisienne, là, le temps reste sec. On aura même quelques beaux rayons de soleil. Sur la moitié sud, c'est déjà demain matin très agité. Et alors, dans l'après-midi, il n'y a plus que sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Gironde, la Provence et la Côte d'Azur, partout ailleurs, nous aurons des averses tout au long de l'après-midi. Donc, il faut vraiment prévoir le sac à main, le parapluie.
On peut le mettre dans le sac à main aussi. Oui.
Voilà, exactement. Les températures, elles sont stationnaires, comme aujourd'hui. On aura jusqu'à 21 degrés quand même à Paris.
C'est pas mal. Merci beaucoup, Anissa. On vous retrouve à 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
Et à 18h32, on ouvre le débat des grandes voix du mardi avec ce soir à mes côtés Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, Charles Villeneuve et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe de presse Ebra. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Merci beaucoup de m'accompagner ce soir. Alors, est-ce vraiment le bon moment pour déconfiner? On sait que le président devrait, dans les prochains jours, annoncer les modalités de ce déconfinement. Et à l'approche de cette échéance, les médecins, les spécialistes s'inquiètent énormément parce que les chiffres restent mauvais. Et pourtant, on a le sentiment que c'est déjà acté, que malgré ces chiffres, le président va tenir le cap. C'est ce qu'il a laissé entendre hier en déplacement en Seine-et-Marne. Lors d'un bain de foule, il a même précisé les étapes de ce déconfinement territorialisé.
On va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence. Je pense qu'on ne peut pas rouvrir les restaurants, disons, fin mai ou courant juin, dans des départements où ça circule encore beaucoup. Dans d'autres où ça a beaucoup baissé, je pense qu'il faudra les ouvrir. On fera des étapes d'ouverture et chacune dépendra des résultats qu'on a obtenus. On regarde toujours pendant 10-15 jours comment consolider les résultats.
Des étapes d'ouverture, dit Emmanuel Macron, alors que la situation sanitaire, on le dit, reste très mauvaise. Pascal Jalabert, est-ce que c'est bien raisonnable de tenir ce calendrier de réouverture?
Alors je dirais tout dépend où. Puisque quand on regarde la carte de France des taux de circulation du virus, on s'aperçoit que, par exemple, entre Bayonne ou Brest et Bobigny ou le Val-d'Oise, on a des écarts de circulation de 80 à 500. Donc on n'est pas du tout à la même proportion. Donc l'option territorialisée, c'est-à-dire par département, hein, pour faire beaucoup plus simple, est peut-être la bonne. Mais en effet, si on ouvrait aujourd'hui à Paris ou en région parisienne, ça serait deux fois plus que c'était au début de la fermeture, début février, donc il n'y aurait pas de logique. Voilà, donc je crois qu'il va falloir analyser la carte de très près et peut-être décider en fonction d'options territorialisées. Mais alors attention à ne pas provoquer de grandes migrations des endroits où tout serait fermé vers ceux où tout serait ouvert.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a le risque d'appel d'air, effectivement, Sophie de Ravinel. Cette territorialisation, c'est dur à dire, et ça semble être la bonne solution sur le papier, sauf que ça peut très vite mal tourner.
Oui, absolument. On ne sait pas comment ça peut tourner, on ne sait pas quels seront les variants, comment ils vont se développer, comment ils vont arriver. De toute façon, je crois que le chef de l'État, Emmanuel Macron, est assez coincé dans une situation pour le moins difficile parce que même si on apprend par Olivier Véran qu'effectivement, on est peut-être dans une situation qui tend vers l'amélioration, on est quand même depuis deux semaines dans une forte stabilité. Et je dis forte parce que ça reste grave, les entrées dans les hôpitaux, c'est-à-dire les entrées en réanimation et le nombre de morts surtout. Et donc, c'est une situation qui est quasiment presque inextricable pour les chefs de l'État. Parce que s'il y a une détente par la réouverture, justement, y compris dans certains départements et pas dans d'autres, c'est un signal, ce sont des indications qui sont données à l'ensemble de la population française que ça va mieux. Or, ça n'est pas le cas, parce que s'il y a donc cette détente, y compris sans le variant indien ou sans de nouveaux développements, la situation peut tout à fait s'inflammer de nouveau.
Oui, c'est vrai ce que vous disiez, les chiffres, ça semble s'améliorer un peu, mais enfin, lors du déconfinement, du deuxième déconfinement, il y avait 3765 personnes en réanimation. Aujourd'hui, elles sont plus de 6000. C'est presque autant que lors de la toute première vague. Charles Villeneuve, ça n'est pas une décision vraiment sanitaire que s'apprête à prendre Emmanuel Macron, c'est une décision politique.
Oui, largement. Et puis moi, j'ai l'impression qu'il a pour revue et livre de chevet soit des grands ouvrages de spécialistes de l'épidémie. Et puisqu'on nous dit, si vous voulez, avec une certaine, je dirais, obséquiosité, notamment ses collaborateurs, qu'il est devenu un véritable spécialiste. Et donc ce spécialiste...
Vous en doutez ?
Oui, enfin, je trouve ça assez, si vous voulez, parce qu'il y a quand même des scénarios, comme vient de le dire ma consoeur, il y a quand même un certain nombre de scénarios qui ne sont pas très optimistes, sur le plan notamment de la circulation des variants ou la circulation même du virus en général. Et donc, par rapport, si vous voulez, à ce qu'il a lâché par petites touches, c'est en cela que je trouve qu'il est politique, en ce sens où il voit très bien la lassitude considérable quand il va au contact. Il est en campagne là, électorale, et il sent bien la lassitude des restrictions, notamment, et que tout le monde a envie de se libérer un peu plus. On l'a vu encore tout à l'heure, le flashman nous a dit qu'il y a des poursuites judiciaires, oui. Après, parce que les gens se réunissent, Chaumont, oui. etc., parce qu'ils ont envie de se libérer. Mais cela étant, on a perdu le fil de la cohérence politique. On ne sait plus maintenant où ça va se passer, quand ça va se passer. Et d'ailleurs, ça ne peut pas se passer partout, comme tu viens de le dire, dans un certain nombre de régions. On sait bien que le Sud-Ouest et la Bretagne sont à l'écart, si vous voulez, de la circulation du virus. Donc, je ne comprends pas très bien, parce que si ça se trouve, il ne pourra pas tenir mi-mai. Et à ce moment-là, il y aura une énorme déception. Regardez, même le MEDEF est en train d'insister, le patronat, en disant « essayons d'ouvrir le 10 mai avant le week-end de l'Ascension ». Et chacun, évidemment, fait pression, mais il n'empêche que cette pression ne correspond pas avec la circulation du virus et l'encombrement des hôpitaux.
Oui. En parallèle, si je peux me permettre, juste un petit point sur les vaccinations. Parce que par rapport...
Oui. Bien sûr, c'est capital, évidemment.
Évidemment, c'est la réponse. Ce qui est en face de nous, c'est la nécessité d'aller plus vite dans les vaccinations. Or, on est toujours un peu sur le même nombre de vaccinations. Là aussi, il y a un double problème, c'est-à-dire à la fois d'approvisionnement et à la fois du public concerné. Parce qu'on voit qu'il commence à y avoir un nombre de créneaux qui ne sont pas remplis. Et c'est comme en Israël, où ils ont vacciné 60% de la population, mais il reste le 40% qui reste compliqué, qui sont ceux qui ne veulent pas aller se faire vacciner et qui peuvent de nouveau provoquer un afflux de l'épidémie. Et donc là, il y a une pression très forte qui est exercée pour que les créneaux, soit on abaisse plus vite, soit on donne la possibilité à des métiers exposés de pouvoir aller se faire vacciner, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire.
Mais moi, je crois surtout qu'il faut faire sauter la barrière des âges.
Oui, sans doute. Il faut quand même, en Israël,
c'est comme ça que ça s'est passé.
Déjà, on va la baisser. Le gouvernement, il envisage d'avancer la vaccination au plus de 50 ans.
Que nous avons et que le Figaro et le Journal du Gros, les quotidiens du groupe Evraon, en effet, maintenant on parle de 50 ans.
Oui. Voilà.
Et il se peut que ça arrive très vite cette semaine. Donc oui, c'est une urgence. Après, le président Macron et le gouvernement, ils sont sous une triple pression. On a vu en effet, lors du flash, tous ces gens qui n'en peuvent plus, qui sont impatients, qui ont envie de sortir, de faire la fête. Ça, c'est une pression quand même. Il y a la pression économique, des acteurs économiques. Ils disent, attendez, nous on fait des protocoles, on se prépare, donc il va bien falloir nous lâcher en donner. Et puis, il y a la pression des images qu'on commence à voir à l'étranger. À Rome, les bars sont ouverts.
Oui, bien sûr.
Au Pays basque espagnol, les bars sont ouverts. Donc, du coup, si la France est le dernier, ça va faire un peu désordre.
Juste rapidement, si ce déconfinement échouait, Emmanuel Macron, il en serait tenu directement responsable, Charles Villeneuve.
Évidemment, c'est l'enjeu. On sait très bien, de toute façon, que, évidemment, on compare. J'ai vu un certain nombre d'intervenants politiques comparer à ce qui s'est passé avec le père La Victoire, avec Clémenceau. En 14-18, qui était vraiment le père de la victoire, qui a été abattu au lendemain, qui a été battu au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale. Idem avec Churchill,
Churchill,
etc. Oui, et un taxi vide s'arrête devant le 10 Downing Street et Clément Attlee disait Churchill en sort. Bon, mais cela étant, il est bien évident que les gens sont en train de vivre une période extrêmement difficile et qu'ils en garderont le souvenir. Et surtout de la manière dont ça a été géré.
Et l'élection, c'est bientôt. Je vous propose qu'on poursuive ce débat dans un instant, les grandes voix. On va parler de cette tribune de généraux soutenue par Marine Le Pen et qui légitime une éventuelle insurrection. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
C'est la suite de notre débat des grandes voix du mardi sur Europe 1, toujours avec Charles Villeneuve, Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe de presse Ebra, et Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro. Alors on va revenir sur cette tribune publiée par Valeurs Actuelles et signée par un bataillon de militaires retraités, une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés, une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Ces militaires dénoncent le délitement de la France. Ils s'inquiètent d'une possible guerre raciale, de l'islamisme. Ils se disent disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. On verra que Marine Le Pen leur a répondu. « Rejoignez-moi », leur a-t-elle dit. De quoi faire bondir la ministre des Armées, Florence Parly, hier sur CNews.
C'est une faute politique que de vouloir appeler des militaires à rejoindre un parti politique. Les armées sont au service de la nation. L'armée, c'est la République. Les militaires ne sont pas des militants politiques.
Alors, elle est en colère, hein, manifestement, la ministre des Armées. Il faut dire que les mots de cette tribune sont forts. Hein. Il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. On ne comprend pas bien le but de cette tribune, Charles Villeneuve. C'est quoi ? C'est un appel au putsch ou au patriotisme ?
Non, d'abord, on a fait le rapprochement, justement, avec le putsch contre le général de Gaulle au moment de la guerre d'Algérie, et ça n'est pas du tout à la même date. Cette tribune a été d'abord publiée le 13 avril, et pas le 21 avril, comme ça a été le cas en 1961. Première chose. Deuxième chose, moi, ce qui, si vous voulez, pour moi, il y a une remarque que j'ai tout de suite pu faire, c'est qu'il n'y a aucun général au-dessus du lot. Pas de généraux d'armée, pas de généraux de grand commandement, à l'exception d'un seul, Picmal, qui a commandé la Légion étrangère, mais qui a été rayé des cadres lorsqu'il est allé manifester, manifestation interdite contre les migrants à Calais. Bon, voilà, c'est le seul. La deuxième chose, moi, qui m'a choqué, qui est une phrase, si vous voulez, que personne ne relève ou peu de gens ont relevé. C'est lorsqu'ils font appel à leurs camarades d'active et qu'ils leur demandent de toute façon de se préparer à éventuellement des interventions violentes dans le cadre d'une guerre civile. Or, il faut savoir que lorsque vous parlez avec les officiers généraux d'état-major, etc., tous vous disent « surtout ne nous mêlez pas parce que l'armée n'est ni formatée ni formée à ce type d'affrontement ». Je vous rappelle que, notamment, la sénatrice de Marseille, Samia Ghali, oui, avait proposé de faire appel à l'armée pour neutraliser un certain nombre de turbulents marseillais dans un quartier difficile, dit difficile. Bon, et j'avais appelé, moi, l'état-major de la Légion étrangère, qui est à 12 km de Marseille, à Aubagne, et surtout, ils étaient quasiment, si vous voulez, désarçonnés par ce fait, en disant « surtout pas nous, ne nous mêlez pas à des tâches de police ». C'est ce qui me choque le plus dans cet appel. Cela étant, ils ont le droit de s'exprimer. Vous savez que la loi a été modifiée. Droit, ceux qui sont en deuxième section. La deuxième section, c'est la retraite. Mais la deuxième section des généraux, c'est qu'on peut faire appel à eux pour un retour au service. C'est justement pour la raison pour laquelle on les place en deuxième section. Ça, c'est la troisième
chose. Ce que vous nous dites, c'est que la grande muette ne doit pas forcément rester muette aujourd'hui. Ils ont le droit de s'exprimer, dites-vous.
Non, ils sont à la retraite. Ouais. Donc, ils ont le droit de s'exprimer. La loi a été modifiée là-dessus. Mais là où je trouve, si vous voulez, et je considère que c'est une erreur politique de la part de Marine Le Pen, c'est qu'elle a déconsidéré cette tribune.
On va revenir
sur Marine Le Pen. Parce qu'elle donne le sentiment d'une coordination, ce qui n'est pas le cas.
Alors, on va revenir effectivement sur la réaction de Marine Le Pen qui est intéressante. Pascal Jalabert, cette tribune, elle a quand même une tonalité qui s'écarte de la doctrine de neutralité au sein de l'armée, de loyauté. On est un petit peu surpris quand même.
Oui, on est un petit peu surpris. Et alors surtout quand on discute avec des militaires d'active, eux-mêmes sont choqués. Les hauts gradés sont choqués parce qu'en effet, eux, ils disent « Attendez, nous, en ce moment, nos priorités, c'est l'opération Barkhane au Mali ». Où il y a quand même pas mal de boulot, et c'est là que sont aujourd'hui les plus grands foyers terroristes qui menacent la France. Donc, ils ont ce job à faire. Le maintien de l'ordre, il faut rappeler qu'à la libération, on a bien distingué le rôle de l'armée, qui est là pour des opérations extérieures, pour défendre le territoire. Et puis, la police, on a créé les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, la gendarmerie mobile, pour s'occuper de ça. Donc, c'est un peu à chacun son job.
Absolument.
Ensuite, dans la liste des fameux 40, il y en a quand même deux qui ont été candidats sur la liste de Marine Le Pen et un sur celle de Nicolas Dupont-Aignan à une époque. Donc, du coup, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre la réaction immédiate et rapide de Marine Le Pen et la tribune. Et c'est là que ça choque ces militaires d'active et beaucoup de monde au-delà.
Et alors, Sophie Dravinel, elle a eu raison de leur répondre, Florence Parly, la ministre des Armées.
Mais bien sûr, et elle aurait dû le faire peut-être encore plus vite, encore plus fort, si c'est effectivement la date du 13 avril qui est concernée, peut-être à la racine. Après, bon, évidemment, c'est parce qu'il y a eu toute cette mise en valeur de quelque chose qui est assez dérisoire, en fait, parce que ces généraux, comme mes deux confrères l'ont très bien exprimé, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pour beaucoup, d'ailleurs, des colonels qui ont eu à leur retraite les étoiles de général, qui sont aussi qui n'ont pas vraiment été opérationnels sur le terrain. Certains ont gagné leur galon dans les états-majors politiques, ou au moins au service de... Voilà.
Mais ça n'est pas leur donner du crédit, alors que finalement,
si,
une représentation...
Mais en fait, il y a quand même un vrai problème. C'est-à-dire qu'au-delà de cette tribune, il y a la potentialité d'un vrai problème. Ça, évidemment, Jean-Luc Mélenchon à gauche l'a largement exploité en parlant de
risque. Moi, je pense pour faire
risque.
Oublier le fait qu'il n'a pas dit un mot sur l'assassinat de l'agent.
Non, mais ça, c'est autre chose, évidemment. Mais évidemment,
il a
dit autre chose. Mais il y a une réalité qui est un risque de tension sociale, civile, évidemment, militaire. Personne ne l'imagine, mais dans l'armée, il y a peut-être quelques exaltés. On l'a vu, il y a aussi des personnes qui sont engagées politiquement. Mais enfin, la très, très grande majorité des officiers supérieurs ne sont
pas seulement des exaltés.
Bien sûr.
Oui, Charles, mais
bien sûr. C'est important de le dire. On va revenir tout dans un instant sur la récupération politique de cette tribune. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h50, suite de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Sophie Dorin-Finel, Pascal Jalabert et Charles Villeneuve. On poursuit notre débat autour de cette tribune qui appelle Emmanuel Macron à défendre le patriotisme, ces militaires qui dénoncent le délitement qui frappe, selon eux, la patrie et qui se disent disposés à soutenir les politiques qui prendraient en considération la sauvegarde de la nation. Alors les signataires affirment ne pas vouloir de récupération, ne pas entrer dans un jeu politique, sauf que, on l'évoquait tout à l'heure, Marine Le Pen n'a pas tardé à inviter les auteurs de cette tribune à la rejoindre. Marine Le Pen accusée dans la foulée de récupération. Écoutez ce que dit Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté.
Marine Le Pen nous dit qu'elle veut être candidate pour devenir présidente de la République et donc chef des armées, mais elle montre en soutenant cette tribune, voire peut-être en l'initiant, qu'elle ne comprend rien à la grandeur de l'engagement militaire. L'engagement militaire, il est fondé sur la neutralité, sur la loyauté.
Sophie Dravinel, Marine Le Pen s'est disqualifiée en soutenant cette tribune ?
Oh, je ne sais pas, il y a une manipulation, il y a un intérêt politique pour elle qui est évidemment celui d'un intérêt de premier tour, de faire venir à elle toute une frange protestataire dans la société française qui peut être représentée par ce groupement de retraités mais autour desquels peuvent s'agréger d'autres protestations qui viennent d'ailleurs, pas forcément, justement, donc, comme on le disait avant, au sein de l'armée. Donc, y a, après, effectivement, il y a ce risque qu'elle prend d'assumer des désirs putschistes chez certains ou de vouloir valider quelque chose. Mais elle a surtout un intérêt politique.
Politiser l'armée, c'est une erreur,
oui,
Pascal Jalabert.
Oui, c'est complètement une erreur. Alors, Marine Le Pen, elle est tétanisée aussi parce qu'il y a eu, il y a quelques mois, des sondages qui disaient que le général, je ne vais pas me tromper de prénom, c'est Pierre de Villiers, avait, entre guillemets, un potentiel électoral important, alors qu'il ne demandait rien. Pourquoi ? Parce que ce général, qui est quand même d'un autre niveau que ceux qui ont signé la tribune...
Oui, qui n'a rien à voir avec eux.
Et qui n'a rien, absolument rien à voir avec eux, il incarne une sorte d'autorité dans laquelle beaucoup de Français se reconnaissent. Je crois que pour cette élection présidentielle, alors, sur une grande partie électorale, il y a un double besoin qui est en train de s'exercer. D'un côté, c'est un peu une injonction paradoxale, d'un côté un besoin d'autorité parce qu'on trouve qu'il y a du laxisme sur beaucoup de points, et de l'autre, un côté un peu de bienveillance parce que les Français disent « bon, ben, il faut aussi de la justice sociale ». Donc Marine Le Pen, elle essaie de récupérer tout ça. Et là, elle a eu peur, encore une fois, d'être dépassée. Mais oui, ce n'était pas le moment de faire ça, parce que maintenant, que ces généraux le veuillent ou non, ils sont récupérés par Marine Le Pen.
Et ça casse en plus un peu son image de dédiabolisation, Charles Villeneuve, parce qu'il parle, ces généraux, de hordes de banlieue, de ne pas respecter les institutions. Est-ce que c'est un bon calcul pour Marine Le Pen de s'associer?
Elle ne s'est pas déconsidérée. Elle a handicapé le texte des généraux en le récupérant. Et elle a créé en quelque sorte une aubaine dont s'est saisie tout de suite, évidemment, la majorité. Tout de suite, il est bien évident que la ministre de la Défense ne pouvait pas rester sur son Aventin. Il fallait tout de suite, évidemment, condamner cette tribune et par-dessus le marché. On a une preuve supplémentaire du début de la campagne présidentielle. C'est devenu, parce que Marine Le Pen avait récupéré ce texte, c'est devenu un débat entre le pouvoir, l'exécutif et Marine Le Pen. Et vous remarquerez d'ailleurs que sont exclus de ce débat aussi bien les Républicains que le Parti Socialiste. Or, les Républicains, justement, par rapport à l'armée, ont des choses à dire. Or, évidemment, ils sont complètement muets.
Il y a Benoît Hamon qui a critiqué quand même le manque de réaction gouvernementale face à cette menace, dit-il, de coup d'État militaire. Il y a la France Insoumise aussi, on l'évoquait, qui voit un soulèvement. Et Jean-Luc Mélenchon, il demande des poursuites judiciaires. Il faudrait qu'il y ait des sanctions contre ces militaires.
Oh, sans doute qu'il faut quelque chose de symbolique. Après, effectivement, comme cela a été souligné, les militaires en retraite n'ont pas n'ont pas l'interdiction de s'exprimer. Absolument. Et donc voilà, après, tout dépend de la nature de l'appel. Mais des sanctions, sans doute, s'il y a quelque chose qui est vérifié, en tout cas dans leurs intentions séditieuses ou putschistes, peut-être qu'effectivement, la justice a quelque chose à dire, oui.
Oui, parce que la ministre des Armées, elle a effectivement rappelé, vous l'évoquiez tout à l'heure, Charles Villeneuve, le cas du général Christian Piquemal, qui avait radié parce qu'il avait participé à une manifestation interdite contre les migrants à Calais.
À l'époque, mais surtout, il ne faut pas confondre les généraux, les officiers, si vous voulez,
ça vous insistez beaucoup
supérieurs,
là-dessus. Oui.
Ou les sous-officiers, parce qu'il y a un certain nombre qui représentent toute la hiérarchie, tout l'éventail de l'armée dans cette tribune, et qui ne dit pas des choses fausses sur ce plan-là. En cela, c'est même un petit problème pour
c'est-à-dire,
le président de la République.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est-à-dire le délitement d'un certain nombre de valeurs. Il y a beaucoup de gens qui le pensent aussi. Simplement, cette tribune est déconsidérée à partir du moment où, évidemment, le Rassemblement national essaie de récupérer.
Oui, mais ça va au-delà. Il y a quand même là un appel à l'insurrection, si je peux le faire.
Et surtout, un message très xénophobe aussi au sein de cette...
Ce n'est pas la tribune qui appelle à l'insurrection. C'est plutôt, si vous voulez, un autre homme politique qui, lui, a appelé à l'insurrection. Oui.
C'est-à-dire
à qui vous pensez,
Philippe de Villiers.
Oui, enfin là, oui, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais ce qui est sûr...
C'est un sujet qui
C'est pour ça qu'il faut distinguer les prénoms.
Oui, effectivement, entre le général de tout à l'heure et le Philippe. Oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'armée, c'est l'institution dans laquelle les Français ont le plus confiance.
Oui.
85% selon un sondage Elabe, très loin devant la police, la justice, ça risque de dégrader un petit peu son image quand même.
Oh, moi, je ne pense pas.
Non, je pense que les Français font quand même le distinguo entre nos soldats. Et encore une fois, quand on en parlait avec eux,
ceux
ils vous
qui
disent
sont sur le terrain opérationnel
et des retraités. Mali, entre, comme on
non, mais moi, j'aurais pris au sérieux cette tribune s'il y avait des généraux de renom et qui étaient de toute façon non seulement de renom, mais d'actifs, ou en tout cas des généraux qui ont eu des grands commandements. Il
n'y
a pas d'anciens chefs d'état-major des armées.
Donc finalement,
Charles Villeneuve, même des cadres qui ne seraient pas des généraux, mais qui seraient influents, ce serait inquiétant. Des colonels, des commandants qui seraient sur le terrain, qui auraient eu des faits d'armes, qui seraient reconnus par leur père. Là, oui, il y aurait des questions à se poser, une inquiétude à avoir. Ce n'est pas le cas pour le moment.
Mais relisez le discours du président de la République, Charles de Gaulle, le 23 avril 1961. Et là, vous allez trouver tous les fondements, justement, de ce type de tribune.
Bon, on va relire ça,
merci.
C'est promis. Merci à vous. Merci beaucoup, les grandes voix du mardi. Dans un instant, toute l'info sur Europe 1 avec votre journal de 19h. À tout de suite.